Bonjour mes frères et sœurs, nous allons partager la parole de Dieu, nous allons prendre pas mal de versets, j'aimerais que vous les notiez peut-être, pour que dans vos prochains cultes personnels vous puissiez les méditer. Beaucoup de chrétiens sont pauvres spirituellement parce qu'ils ne méditent pas la parole. Dans le psaume 107, au verset 20, il y a un verset merveilleux. Tous les versets sont intelligents, mais il y a des versets qui nous interpellent. Je voudrais demander à ceux qui sont peut-être superficiels, ceux qui n'écoutent pas, ceux qui n'écoutent jamais, de faire attention. La pauvreté spirituelle, c'est dommage. Vous savez, quand Jésus dit à cette église, « Mais tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. » C'est terrible de... Mais en même temps, c'est formidable que Dieu puisse nous le dire. Oui ou non? Mais oui, si encore on peut entendre ces choses, c'est bon signe. C'est mauvais signe dans le sens où on est en danger, mais c'est bon signe dans le sens où encore on entend. Et si vous vous estimiez pauvre spirituellement de ne pas arriver à cette richesse de grâce, si vous vous estimez nu, juste peut-être le vêtement du salut, je crois, mes frères et sœurs, que ce matin, cette prédication, elle est pour vous. Vraiment. Psaume 107, verset 20, regardez ce verset. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse qui loue l'Éternel pour sa bonté. Il envoya sa parole et les guérit. Dieu guérit. Il guérit les corps. Est-ce que quelqu'un peut être guéri ce matin? Bien sûr. Il guérit les âmes, il y a des gens qui psychiquement sont complètement dérangés, et il y a des gens qui spirituellement ne vont pas bien parce que leur âme n'est jamais rassasiée. Ils peuvent lire « L'Éternel est mon berger », mais ce n'est pas vrai, parce que Dieu ne restaure pas leur âme. Le prochain verset, c'est dans 2 Corinthiens au chapitre 13, une exhortation, un enseignement, un conseil, comme vous voulez. Mais est-ce que ce matin on est capable de vivre ce qu'on va lire? Si vous êtes, je parle à tous ceux qui sont baptisés, à tous ceux qui un jour ont dit « Oui, Seigneur Jésus, tu seras mon sauveur, et de surcroît, tu seras mon Seigneur. » Il faut que nous examinions, comme dit ce verset, de Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Si nous ne le faisons pas, vous allez lire avec moi ce qu'il en est. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. « Examinez-vous vous-même, on n'est pas là pour regarder l'autre, soi-même, la parole de Dieu, c'est un miroir. Un miroir, ce n'est pas pour regarder les autres. Un miroir, c'est pour se regarder. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? » Alors regardez la suite. À moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. Donc examinez-vous vous-même, éprouvez-vous vous-même. Pourquoi? Pour savoir si vous êtes dans la foi, ou alors on pourrait mettre si vous êtes dans la confiance. Vous entendez mes frères et sœurs? Ce matin, nous sommes devant Dieu, nous sommes venus, il y a beaucoup de joie, parce qu'il y a vraiment la joie du salut, quand il est dit « mon âme se réjouit, mon esprit ». Pas mon âme, mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur. D'un autre côté, Dieu, on l'a vu l'autre fois, Dieu dit « ce que Dieu aime, c'est un cœur brisé ». Donc on voit bien cet équilibre, la joie du salut qui est indéniable et le fait de dire « oui, mon âme peut être brisée parce que s'il y a des trucs qui ne vont pas, il faut que je m'examine ». On va prendre le pain et le vin, on va partager la communion fraternelle, on va certainement dans la semaine, si Dieu est notre Seigneur, réfléchir à ces choses. Examinez-vous vous-même. C'est mon devoir de veiller sur votre âme. Mais la Bible nous demande aussi de veiller nous-mêmes sur notre âme. Si vous attendez tout du pasteur, vous commettez une grosse erreur. Vous devez attendre beaucoup des pasteurs, c'est assez vrai. Mais vous devez aussi, la preuve en est, et vous édifier vous-même sur cette foi qui est une véritable confiance. Alors, je voudrais lire avec vous d'autres versets dans 2 Corinthiens au chapitre 5. Dans 2 Corinthiens, on voit Paul. Connaissez l'apôtre Paul, ses expériences, sa communion avec Dieu. Et regardez ce qu'il dit. Ça serait un des éléments de cette prédication, de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 6. Et nous allons lire jusqu'au verset 10, puisqu'à deux reprises, il répète la même chose. Si c'est dit deux fois, ben c'est que c'est important. De Corinthiens, chapitre 5, verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Alléluia, deux fois. Vous aimeriez sortir de ce lieu en disant ça? Est-ce que vous réalisez ce que l'on lit? Nous sommes donc toujours pleins de conscience, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance. Il répète, c'est important. Et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Bon, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Ça vous préoccupe? Est-ce que franchement, qu'est-ce que ça vous fait de savoir que nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ? Ça vous fait quoi? Aidez-moi, on n'est pas nombreux ce matin. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que tu comparaîtras devant le Seigneur? Ça te fait rien? Ou est-ce que ça commence à te changer la pression? Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Tiens donc, c'est vrai, toutes ces exhortations sont saines. Toutes ces exhortations sont utiles. Et c'est vrai que c'est la volonté de Dieu que nous aussi, nous puissions vivre en étant pleins de confiance, c'est-à-dire pleins de foi. Et je voudrais ce matin que nous comprenions bien peut-être que nous, des fois nous prions, mais franchement nous ne réalisons peut-être pas bien ce que nous disons, nous ne réfléchissons pas. Nous prions par exemple tous, à peu près, de cette façon, on pourrait résumer nos prières à cette parole, notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite. Est-ce qu'on pourrait résumer nos prières? Oui, c'est clair. Même des gens qui ne connaissent pas Dieu la font cette prière. Que ta volonté soit faite. Je veux faire ta volonté. Je ne sais pas, je ne comprends pas tout de ta volonté. Il y a des choses que je ne peux pas savoir. Par exemple, un jeune homme dirait, moi j'aimerais me marier l'an prochain. Mais peut-être que la volonté de Dieu, c'est dans deux ans. Oui ou non? J'aimerais avoir des enfants. Je suis marié. J'aimerais avoir des enfants de suite. Peut-être que vous les aurez que dans 3 ou 4 ans. Parce que le plan de Dieu fait que vous devrez traverser telle et telle affaire. Donc il y a des choses que nous ne savons pas, même si on sait qu'elles sont dans la volonté de Dieu. Par rapport au temps. Mais il y a des choses que nous devrions absolument comprendre, qui sont dans le temps présent. On va en lire deux. Et ça, mes frères et sœurs, franchement, je voudrais que ce matin, tous ceux qui sont tout le temps dans le hamrac, qui se plaignent, qui sont dans la crainte, qui ont peur du lendemain, vous écoutiez cette prédication. Vraiment. Si vous êtes tout le temps en train de râler, je sais que peut-être il n'y en a pas ici des râleurs, mais au cas où, il y en aurait un de passage. Oui, au cas où, de passage. C'est sûr, de passage. Éphésiens. Nous avons lu, vous vous rappelez, la question que Jésus a posée à ses deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. De quoi vous entretenez-vous? De quoi vous entretenez-vous en marchant? Ils ont ouvert leur cœur, ils ont dit tout ce qu'ils avaient à dire, ils n'avaient pas compris grand-chose. Et le Seigneur les a éclairés, parce que c'est certainement qu'ils cherchaient. Si Jésus a pris le temps de s'approcher de ses deux disciples, le jour de la résurrection, de deux disciples qui étaient en train de fuir, en fin de compte, puisqu'il fallait qu'ils restent à Jérusalem, ils partaient. De quoi vous entretenez-vous? Est-ce que cette semaine, vous vous êtes entretenu de choses spirituelles, ou est-ce que vous vous êtes entretenu de ce que, peut-être la vitesse, il va falloir passer à 80 km/h? Moi, ça me fait pas rire, hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui révèlent au travers de cela combien ils sont rebelles. Qu'est-ce que ça fait? Soumettez-vous aux autorités. Point barre. Hein. Et ça devrait nous faire réfléchir. Si vous êtes alors ça c'est sûr que ça c'est important ça c'est important. Vous pouvez passer des heures. Mais peut-être que les deux versets qu'on va lire, ça vaudrait peut-être la peine qu'on y réfléchisse un petit peu plus que de savoir si telle loi est intelligente ou pas. On s'en fiche de ça. Éphésiens chapitre 5, verset 19. N'oubliez pas qu'au verset 18, il nous est dit que nous devons être remplis. On ne peut pas être plein de confiance si on est rempli du Saint-Esprit. Si on est rempli du Saint-Esprit, par contre, c'est sûr qu'on sera plein de confiance. Je ne parle pas des dons. Je ne parle pas des dons. Je parle du fruit. Verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout cœur les louanges du Seigneur. Là, on pourrait s'arrêter et dire, tiens, de quoi est-ce que je m'entretiens? Quelle sorte de musique j'écoute? C'est une question qu'on peut quand même poser, oui ou non? Quelle sorte de musique j'écoute? De quoi je m'entretiens? Il faut être archi-pratique. Une prédication, si elle n'est pas pratique, elle sert à rien. Peut-être un petit peu à enrichir notre intellect. De quoi je m'entretiens? Vous savez, on est dans des temps difficiles et il vaudrait mieux qu'on sache exactement où on en est spirituellement. De quoi je m'entretiens? Comment je célèbre Dieu? J'ai chanté, j'ai prié à haute voix. Il y en a qui l'ont fait à haute voix, c'est bien. Il y en a qui l'ont fait dans leur cœur. Je suppose que si vous n'avez pas prié à haute voix, beaucoup l'ont fait dans leur cœur, oui ou non? C'est exactement pareil. La seule chose qui change, comment je l'ai fait? Est-ce que je l'ai fait de tout mon cœur? Dieu le voit, il n'y a que Dieu qui le voit ça. Parce que vous savez, on peut formuler des prières. Moi, je me rappelle un jour, qu'est-ce que vous priez bien? Pourquoi? Vous priez fort. Hein? Moi, je peux vous dire, je vais prier bien. C'est ridicule. Regardez bien, mes frères et sœurs. C'est ce verset qui est sur mon cœur depuis un moment. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses. Je le relis. Si vous ne le faites pas, je pourrais me permettre de le relire des dizaines de fois. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Vous pouvez garder ce passage, vous allez juste un petit peu plus loin. Dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, le Seigneur donne au travers de l'apôtre Paul tout un tas d'instructions qui ne sont pas des commandements pénibles, ce sont des préceptes de vie. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, il y a une précision, c'est pour cela que je le lis. En second, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, et je voudrais que vous compreniez bien que ce ne sont pas des commandements pour des commandements, ce sont des principes de vie pour favoriser la communion avec Dieu. Si vous interprétez les commandements comme des commandements, je pense que vous allez avoir du mal. Rendez grâce en toute chose, virgule, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ, n'éteignez pas l'esprit. Et je pense que si on néglige cette affaire, on aura vite fait d'éteindre l'esprit. Et il y en a un qui le sait très bien. Vous vous êtes aperçu certainement le nombre de fois dans toute la Bible où le Seigneur est attristé, affligé et doit dire à tout son peuple, vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. C'est impressionnant. Ce matin, je lisais dans le prophète Ésaïe et dans Jérémie. Dans Ésaïe, c'est pareil. On voit Dieu qui est peiné de voir que nous a doté d'oreilles spirituelles. Je ne parle pas des oreilles physiques. Bien sûr que vous entendez. Si vous avez du l'ouïe, vous entendez. Je parle des oreilles spirituelles. Vous savez, dimanche dernier, j'ai dû voir une dame qui est convertie, qui a pris le baptême il y a 45 ans. Elle n'avait pas compris la différence entre la croyance, la prière et la confiance. 45 ans de conversion. Et je vous assure, l'entretien m'a permis, des fois je suis peut-être un peu sévère, mais je peux vous dire que cet entretien m'a prouvé que cette chrétienne est en pleine dépression. Ça peut arriver, je sais qu'on peut avoir des moments difficiles. Mais elle n'a pas compris ce que c'était la confiance. Elle s'imagine qu'elle confond la confiance et la prière. Ça n'a rien à voir. Alors, je vous pose vraiment cette question, parce que imaginons quand même que Dieu puisse vous la poser à ma place. Est-ce que c'est important pour vous d'être dans la volonté de Dieu, réellement? Ou est-ce que pour vous, la volonté de Dieu, c'est assister au culte? Je vais au culte, je prends le pain et le vin, je le fais consciencieusement. Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? Non. La volonté de Dieu, nous venons de la lire d'une manière très simple, d'une manière très facile. Rendez grâce en toute chose. Et c'est accentué donc, pour que notre compréhension, car c'est accentué par cette parole, c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des choses que nous ne savons pas, il y a des choses que nous savons. Alors, cette question, deuxième question, je vous la pose, est-ce que tu veux être guéri? Vous vous rappelez quand Jésus est arrivé à Bethesda, à la piscine de Bethesda? Vous vous rappelez? Il y avait une foule, c'est écrit. Une foule de malades, paralytiques, d'aveugles, etc., de gens qui étaient tous malades. Et ce que Jésus fait là, il le fait de manière unique, pour ainsi dire. Il va vers un homme et il lui pose la question, « Veux-tu être guéri ?» qui était là depuis longtemps. Et peut-être que vous êtes là depuis longtemps, que vous êtes chrétien depuis longtemps, et que vous aimez Dieu, ça ne change rien à l'amour. Ce n'est pas une question d'amour. C'est une question de victoire. On peut aimer son conjoint et ne pas le connaître. Et vivre toute sa vie dans une frustration parce qu'on ne connaît pas son conjoint. Et c'est pareil avec Dieu. On peut aimer Dieu et ne pas le connaître. D'ailleurs, Jésus l'avait dit. C'est Jean-Baptiste qui l'a dit. Il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. C'était un truc de fou. Vous vous rendez compte, Jésus était là au milieu d'eux. Ils n'ont pas compris qu'il était le Seigneur. Et le Seigneur, il est là au milieu de nous pour nous bénir. Il est là pour nous. Il est là pour nous aider. Veux-tu être guéri? Alors commence à obéir. Rendre grâce. C'est vrai que ce qui caractérise la fin des temps, c'est que c'est exactement l'inverse. Paul a dit, dans les derniers jours, les hommes seront ingrats. C'est écrit ou c'est pas écrit? Donc ça ne facilite pas le problème. Les hommes seront ingrats, c'est-à-dire que les gens ne savent pas remercier. C'est un problème ça. Est-ce que vous savez remercier? Est-ce que vous remerciez votre femme parce qu'elle vous fait à manger? Ou l'inverse? Moi, à la maison, par exemple, c'est moi qui cuisine, vous voyez, tout, tout. Est-ce que vous le saviez? Vous de 20 ans, vous deviez le savoir. Est-ce que vous remerciez les gens, votre patron? Ah non, non, mais oh, je bosse pour lui, s'il gagne du pognon, c'est grâce à moi. Moi, je l'ai entendu, ça. Mes frères et sœurs, ce que je vous dis, c'est du béaba. Ce que je vous dis, c'est du... Un enfant peut le comprendre. Mais il y en a un aussi qui sait très bien combien on peut éteindre l'esprit lorsque l'on est ingrat. Mais c'est grave. Hein? Je vous ai dit l'autre jour que j'avais été dans une église, j'avais prêché sur un sujet, l'importance de prier pour les autorités. J'avais prêché sur Gog et Magog, une prédication que j'avais fait un peu ici. Et le frère qui dirigeait la réunion m'a dit, « Monsieur Gau, dans l'église, tout le monde se plaint contre le président. Il n'en faut pas plus pour attrister le Saint-Esprit. La Bible ne nous demande pas d'être de droite, de gauche, de ci, de là. La Bible nous demande de prier pour ceux qui nous dirigent. » Je ne sais pas si vous l'avez fait cette semaine. « Afin que nous menions une vie paisible et tranquille, car cela est bon et agréable à Dieu. » C'est bon, il y a des choses qu'on devrait savoir quand même. Franchement, est-ce que c'est de la méga intelligence ou est-ce que c'est du béaba de réfléchir toutes les fois où il est dit que c'est bon? C'est bon pour qui? C'est bon pour nous. Et mes frères et sœurs, sincèrement, moi je vous assure, quand Dieu dit quelque chose, nous devrions comprendre que c'est pour favoriser la communion. Il y a beaucoup de chrétiens, quand ils lisent la Bible, ils la lisent de manière intellectuelle. Alors, ces gens-là sont souvent pénibles parce qu'ils ne sont pas moitié convertis et ils font tout d'une manière intellectuelle et ils engendrent des gens intellectuels. La parole de Dieu, elle n'est pas pour l'intelligence, même si elle passe par l'intelligence. La parole de Dieu, ce n'est pas juste voir la parole de Dieu comme des lois. Il y a des gens qui disent, oh, moi, ça me fatigue, tous ces commandements, toutes ces lois, moi, j'aime pas ça. Mais frères et sœurs, quand vous lisez la parole de Dieu, vous pouvez lire de sorte, quand vous lisez, vous dites, mais Seigneur, tu te révèles à moi. Tu me montres ce que tu es. Tu me montres ce que tu veux. Tu me montres les promesses. Les promesses qui devraient quand même me toucher. Et si vous croyez que votre cœur, il est fait pour des commandements, vous n'avez pas compris. Notre cœur, il n'est pas fait pour des commandements. Notre cœur, il est fait pour la communion avec Dieu. Et tout ce qui est écrit pour favoriser la communion, même si c'est présenté sous forme de commandement. Enfin, je ne sais pas comment vous vous interprétez, rendez grâce en toutes choses. Ah non, franchement, en toutes choses, mais n'importe quoi. Tu crois que je peux rendre grâce pour cette épreuve? Tu peux rendre grâce dans cette épreuve. Et apprendre quelque chose que Dieu va t'apprendre dans l'épreuve. Et il devrait y avoir dans toutes les églises de France aujourd'hui des dizaines de milliers de chrétiens en plus. Et ils n'y sont pas. Parce qu'ils n'ont pas été sérieux, ils ont prié que ta volonté soit faite. Mais quand ils ont lu « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ », ils ont dit « Mais non, ça c'est facultatif ». Mes frères et sœurs, vous savez quand on est pasteur, on est peiné. Cette semaine, il y a un pasteur, écoutez bien, vous savez, moi j'ai tous les jours des contacts avec des pasteurs. Cette semaine, il y a un pasteur qui m'a appelé pour me dire que dans l'église où il est, les deux prédicateurs ont fait un burn-out en 15 jours. Et je comprends en plus. En plus, je ne suis pas du tout dans un regard de jugement. Parce que je sais très bien que quelqu'un qui n'est pas rentré dans le repos est presque obligé de faire un burn-out. C'est presque pas possible aujourd'hui de diriger une église si vous n'êtes pas dans le repos, ça je le... franchement. Et le Seigneur l'a dit, recevez mes instructions et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Recevez mes instructions et vous trouverez le repos. Et ce matin, moi, je suis simple et j'en déduis que mon exhortation n'a qu'un but venant de Dieu, c'est que vous entriez dans le repos en entrant dans une obéissance joyeuse par rapport à des commandements qui ne sont pas des commandements, qui sont des occasions bénies d'être en communion avec le Seigneur et de faire ce qu'il demande, et de dire, Seigneur, je ne veux pas me faire... Les gens, ils sont tout le temps en train de se plaindre. C'est vrai qu'il faut veiller. Quand Dieu dit quelque chose, il faut le faire. Noé a construit une arche pendant 100 ans, et Dieu a dit, entre dans l'arche. Qu'est-ce qu'a fait Noé? Il est rentré dans l'arche. Je veux dire, c'est archi compliqué. Entre dans l'arche. Et Dieu a fermé la porte. Et sa famille, ils étaient à l'abri du jugement qui allait venir sur la terre, sur toute la terre. Nous savons, mais nous le savons, par tout ce qui se passe, que la colère de Dieu vient sur toute la terre. Et que Dieu nous demande de rentrer. Rentre à l'abri, parce que le jugement va venir. Et ne restez pas à l'extérieur. Restez comme ces poussins, vous savez cette image que Jésus utilise, ces poussins qui sont sous les ailes de la poule. Quelle image de chaleur, de tendresse, de bonté que le Seigneur nous demande. S'il nous comparait à des gros et vieux coqs capables de se défendre, non, il nous compare à des poussins. Poussins, c'est d'une fragilité et ne jouons pas les coqs. Mettons-nous à l'abri. Mettons-nous à l'abri, frères et sœurs. Est-ce que vous êtes à l'abri? Est-ce que ce matin, vous pouvez dire, oui, je suis entré, pas dans ce lieu, spirituellement, mon âme est sous les ailes du Seigneur. Parce que ce qu'il me demande, je le fais. Et franchement, si vous êtes dans une rupture totale, à savoir que vous dites, Seigneur, que ta volonté soit faite, Seigneur, je veux faire ta volonté, montre-moi ta volonté, eh bien, il vous la montre. Rendez grâce en toute chose. On pourrait prendre plein d'exemples. Je pense à David, parce que hier je lisais toutes les fois où il exprime, comme Paul, l'expérience, pas la connaissance. Bien sûr que David, parce que nous on n'est pas toujours conscient. David n'avait que les 5 premiers livres de la Bible. Est-ce que vous vous rendez compte? Il n'avait que le Pentateuque qu'on appelle. Mais ça a suffi pour qu'il expérimente ce que Dieu disait, quand Dieu disait qu'il était le berger d'Israël, quand Dieu disait qu'il était le rocher d'Israël, quand Dieu disait qu'il était le soutien, eh bien, il a expérimenté la communion avec Dieu, et David disait, il disait pas Dieu est le berger d'Israël, Dieu est mon berger. Il disait pas Dieu est le soutien d'Israël, Dieu est mon soutien, Dieu est mon appui, Dieu est ma forteresse, etc. Il se l'était approprié. Vous savez, on chante, vois, nous adorons Adonai. Qu'est-ce que ça veut dire Adonai? Nous adorons El Shaddai. Vous voyez, on chante, je prends ça exprès. Nous adorons El Shaddai. Il y a des gens, je suis sûr qu'ils ont chanté, nous adorons El Shaddai. Moi, si je ne sais pas ce que je chante pas. Qu'est-ce que ça veut dire El Shaddai? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est-ce que j'adore? Parce que franchement, si j'adore quelque chose que je ne sais pas ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire El Shaddai? Nous adorons El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Mes frères et sœurs, je sais que cette prédication, elle est archi-simple. Mais je sais aussi que plusieurs chrétiens sont en train de ne pas rentrer à l'intérieur de l'arche, pour reprendre l'image de Noé, parce qu'ils ont développé un esprit ingrat. Ils peuvent chanter « Nous t'adorons dans ton temple », etc., etc. C'est pas vrai! Un adorateur, c'est quelqu'un qui obéit. Il n'a même pas besoin de conjuguer le verbe adorer. Je t'adore, ou parce qu'on est ensemble, nous t'adorons. Ça ne fait pas de moi un adorateur. Conjuguer le verbe adorer avec ferveur et tout ce que vous voudrez, ça ne fait pas de moi un adorateur. Ce qui fait de moi un adorateur, c'est que j'obéis joyeusement à la parole de Dieu. Même si je ne devais jamais plus prononcer le mot adorer sur la terre, je serai un adorateur en esprit et en vérité. Est-ce que nous voulons être dans la volonté de Dieu? Est-ce que pour vous, c'est sérieux si le Seigneur Jésus vous croisait dans la rue tout à l'heure et il vous dit « Mais qu'est-ce que tu as pensé de ce sermon ?» Même s'il n'était peut-être pas parfait, mais qu'est-ce que tu as pensé de ce sermon? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu veux vraiment être dans la volonté de Dieu? Est-ce que tu crois que tu peux être dans la volonté de Dieu? Est-ce que c'est possible d'être dans la volonté de Dieu? Ou est-ce que c'est des commandements impossibles à vivre? Monsieur Gau, c'est trop compliqué. C'est compliqué? C'est compliqué ce que je vous dis? Sérieusement. Il y a quelqu'un qui aurait le toupet de dire, Monsieur Gau, c'est compliqué? Si vous en êtes là, humiliez-vous vraiment. Et dites, Seigneur, je te demande de pardon. Il vous pardonnera. Il vous aidera. Ne vous inquiétez pas. Il vous aidera. La volonté de Dieu, c'est quelque chose qui est archi compliqué et archi simple en même temps. Archi compliqué parce que des fois, Dieu nous propulse dans des épreuves qu'on n'aurait pas souhaitées. Comme Joseph, ou comme Job, prenons l'exemple de Joseph. Joseph a 17 ans. 17 ans. Parce que ça peut commencer jeune. Dès qu'on est jeune, est-ce qu'on peut avoir des épreuves? Ou est-ce qu'il y a un âge à avoir ou ne plus avoir? Dès qu'on se convertit, dès qu'on choisit d'obéir, on peut être propulsé dans des épreuves qui, humainement, écoutez-moi bien mes frères et sœurs, humainement, intellectuellement, sont le résultat du péché. Quand les frères de Joseph étaient envahis de haine pour leur jeune frère, ils étaient remplis de haine. Ils étaient remplis de jalousie. Ils ont fini, bien sûr, comme ça se passe chaque fois, par devenir violents. Et ils lui ont cassé la figure et l'ont jeté dans une fosse. Et ils l'ont vendu comme un esclave. Quand vous lisez cette histoire, si vous êtes intellectuellement correct, vous dites, c'est le péché, c'est la méchanceté, c'est la jalousie, c'est la haine, c'est la violence qui ont envoyé Joseph en Égypte. Quand vous lisez, vous vous rendez compte, écoutez bien ceci, c'est archi important. Vous vous rendez compte, bien sûr, l'attitude de Joseph dans un si jeune âge est un modèle. Quand vous le voyez, vous ne voyez aucun défaut dans la vie de Joseph. C'est impressionnant, aucun. Quand il est en prison et qu'il a affaire à des gens qui sont en braque, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Mais il est là et quand il dit, mais c'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Il connaît Dieu. Il a 17 ans, mais je peux vous dire que si Dieu s'est révélé à lui par ses songes, c'est que Dieu savait ce qu'il y avait dans son cœur. Et à la place de demander à Dieu des révélations, peut-être demandons à Dieu un cœur pur. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? C'est que dans cette affaire que je suis en train de vous résumer, quelque chose qui au départ est compliqué, c'est devenu, puisque Dieu l'a permis, la volonté de Dieu. Vous me suivez ? Est-ce que vous comprenez ? Il faut bien comprendre, parce que vous êtes peut-être dans une épreuve, mais non, ça c'est pas la volonté de Dieu, dans mon foyer je suis en train de vivre un truc difficile, c'est pas possible, c'est pas la volonté de Dieu. Mais si vous obéissez dans l'épreuve que vous traversez, quelle qu'elle soit, où qu'elle soit, elle peut devenir la volonté de Dieu. Et je pourrais prendre des dizaines d'exemples dans l'Ancien Testament où Dieu intervient et dit par tel prophète, mais tu sais pas que c'est moi qui ai préparé ces choses de loin. Tu te dis, non, Seigneur, c'est pas toi. C'est surtout pas toi. Mais quand vous connaissez Dieu, vous voyez, il règne. Il règne au siècle des siècles. Et mes frères et sœurs, lorsque vous et moi, parce que je suis avec vous, nous prions, Seigneur, que ta volonté soit faite, il faut que vous compreniez que tout ce que vous traversez, compliqué ou pas, peut devenir et deviendrait la volonté de Dieu, ce qui est extraordinaire. Que son nom soit béni. Et le murmure, la plainte, parce que c'est un choix en fin de compte, rendre grâce ou se plaindre, c'est un choix. C'est un choix que vous prenez, que vous décidez. Et vous voyez des hommes comme l'apôtre Paul, lorsqu'il s'est fait lui aussi tabasser, jeté en prison avec son collègue Silas. Dans la prison, il râle pas, il ne pense pas rendre le tablier. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils chantent. Ils prient, bon, prient encore ça. Tu te dis, c'est un peu normal. Mais ils ne prient pas, ils ne font pas que prier. Ils chantent. On pourrait dire, bon, ils ont vraiment été frappés à la tête. Mais moi, je crois qu'ils ont le cœur dans la communion avec Dieu. Pourquoi ils chantent ? Mais parce qu'ils connaissent Dieu. Et ils savent ce qu'est l'expression de la haine, de la méchanceté, de la jalousie, comme je viens de le décrire, devient la volonté de Dieu. Parce qu'ils le connaissent. Mais par contre, quand vous voyez dans l'Ancien Testament, il y a quand même nous, on n'a pas 5 Bibles, 5 livres, on en a 66, qui nous permettent vraiment d'avoir une analyse beaucoup plus équilibrée. Quand vous voyez, moi, ce qui m'a marqué quand j'ai lu les Nombres, par exemple, ou l'Exode, j'ai été marqué, même interpellé. Il murmurait, il ne faisait que murmurer contre Moïse. Et qu'est-ce qu'il est dit ? La colère de l'Éternel s'enflamma. Tu te dis, le jugement est disproportionné. Tu te dis, c'est pas possible. Bon, que quelqu'un pêche, des trucs graves, que Dieu se mette en colère, tu comprends. Mais là, ils font que murmurer. Mais parce que ça revient au même. Quand la colère de Dieu s'enflamme, ça veut dire qu'il ne peut plus faire sa volonté. Il ne peut plus agir, il est bloqué. Est-ce que vous comprenez ? Et quand il est écrit, le peuple murmura aux oreilles de l'Éternel et cela lui déplut. Mes frères et sœurs, si vous murmurez, je parlais tout à l'heure de la vitesse à 80 km/h, franchement, qu'est-ce qu'on en a à faire ? On consommera moins. Mais sérieusement, vous avez ergoté là-dessus ? Ça doit révéler votre caractère. Nous devrions tous, puisque Dieu nous le demande, examinez-vous. Éprouvez-vous pour savoir si vous êtes dans la confiance. La confiance, ce n'est pas la confiance en vous, c'est la confiance en Dieu. Dieu ne dit pas, ayez foi dans vos prières, ayez foi dans vos expériences, ayez foi en Dieu. Les regards sur Dieu, c'est pas. Examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi, ce n'est pas de l'introspection morbide. C'est pas pour savoir si vos yeux sont, si vos sentiments, si vos émotions vont bien. C'est pour que vos yeux soient sur Dieu. Est-ce que vous comprenez ? La foi, c'est pas vos yeux sur vos efforts, vos progrès, vos sentiments. Oh, j'ai fait des progrès depuis le 1er janvier. Oh, j'ai fait des progrès. Mais c'est pas ça. C'est examiner. Est-ce que mes yeux sont toujours fixés sur le Seigneur ? Est-ce que vraiment je suis là ? J'ai compris. Que de rendre grâce, ça me permettra de vivre cette expérience. Ce qui est important, ce n'est pas ce que vous pensez. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit. Je donne une image qui m'est venue pendant qu'on chantait. Vous devriez, demain, passer devant un juge. Vous avez, hélas, écopé d'un procès, un procès. Qu'est-ce que c'est qui est important? Ce que vous, vous pensez du juge? Ou ce que le juge pense de vous? C'est quoi qui est important? C'est ce que le juge pense de vous. Ce qui est important, ce n'est pas ce que vous, vous pensez de Dieu. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit. Quand Dieu dit qu'il pourvoira, vous le croyez qu'il pourvoira? Pourquoi il nous demande de rendre continuellement grâce? Parce qu'il voit quand quelqu'un fait cela. Bien sûr qu'il le fait avec le cœur. Si vous commencez à mettre le réveil toutes les 5 minutes en disant « toutes les 5 minutes, je vais le faire », ça a sonné. Oula, je rends merci Seigneur ». Allez, vous attendez la prochaine sonnerie, dans 10 minutes. « Ah, oulala, merci Seigneur de me le rappeler par le réveil ». Non, ce n'est pas ça. C'est un état d'esprit. Je crois que Jésus est El Shaddai. Je le crois vraiment. Il n'y a pas de méthode. Il y a beaucoup de gens qui cherchent des méthodes. Vous voyez la dame dont je vous parlais de dimanche dernier, me dit, mais monsieur Gou, il faut que je répète des textes bibliques. Vous vous rendez compte, 45 ans de conversion. Il faut que je répète des prières, il faut que je répète des versets. Non, j'ai dit, c'est votre cœur. Vous aimez Dieu et cet amour qui vient parce que vos yeux sont sur lui. Vous permet de le connaître. Est-ce que nous le connaissons assez? On pourrait lire un texte qui nous montre vraiment ce que Dieu attend. Regardez dans le psaume 69. Regardez ce psaume, vraiment. Vous voyez, c'est des psaumes, il y en a plein de textes comme ça. Mais bon, j'ai pris celui-là. Psaume 69. Regardez. Regardez s'il est simple ce verset. Psaume 39, 69, pardon, versets 31 et 32. Regardez bien. N'oubliez pas, ça fait partie de ce qui est agréable à Dieu. Je vous l'ai dit, il faudra que je fasse une étude sur ce qui fait plaisir à Dieu, sur ce qui est agréable à Dieu. Quoique vous pouvez le faire, vous, avec une concordance. C'est simple. Psaume 69, regardez bien. Verset 31. Lisons-le doucement, calmement, notez-le et réfléchissez-y. Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques. Je l'exalterai par des louanges. Verset 32. Cela est agréable à l'Éternel plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. Alors vous allez me dire, oui, je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Les sacrifices d'action de grâce sont des sacrifices qui ont été institués par Dieu dès le début. Les sacrifices d'action de grâce. Il y a les sacrifices pour le péché, pour la culpabilité, etc. Mais Dieu a institué les sacrifices d'action de grâce. Et qu'est-ce qu'il dit, le Seigneur? Il dit que la louange, c'est-à-dire rendre continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, car c'est à son égard la volonté de Dieu. Rendre grâce, c'est pour Dieu. C'est plus important que de faire de temps en temps un gros sacrifice. Il y a des gens, de temps en temps, ils font un gros sacrifice. Une fois par semaine, ils font un gros sacrifice. Ils vont à l'église, vous vous rendez compte? 2 heures par semaine. Extraordinaire. Ils font un gros sacrifice. Ils donnent leur dîme à Dieu, de temps en temps, ils font une offrande spéciale. Je suis un bon chrétien. Eh bien, Dieu dit que non. Dieu dit que ce qui lui est agréable, c'est des cœurs qui continuellement chante des cantiques et l'exprime la reconnaissance. Pour tout. Je ne sais pas si vous voulez être debout quand Jésus-Christ va revenir. Parce qu'il va revenir. Beaucoup de chrétiens, hélas, ne seront pas prêts. Moi, je crois que s'il y aura beaucoup de vierges folles qui n'ont plus d'huile, c'est parce qu'ils n'auront pas été sérieux avec ce genre d'exhortation, je le répète, que des enfants pourraient comprendre. C'est écrit dans le Nouveau Testament. Par lui, Hébreux 13, 15, offrons sans cesse, pas le dimanche, sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confessent son nom. Offrons sans cesse. Apprendre tout le temps à dire merci. Si vous n'arrivez pas tout le temps, commençons. Je vais m'appliquer. On voit bien la tristesse de Jésus lorsque il guérit 10 lépreux. Vous connaissez tous cette histoire. Jésus guérit 10 lépreux, ils obéissent. Jésus a dit, ils étaient lépreux, Jésus leur dit, allez vous montrer au souverain sacrificateur. Ils étaient malades. Et il arriva que pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Ils obéissent. Oui, c'est obéissant. Ils l'ont fait, ils étaient malades. Ils auraient pu dire, attends, guéris-nous, puis après on ira, on ne va pas avoir les bêtes d'y aller. Ils obéissent. Vous savez, on aurait pu dire, mais quand même, guéris-moi d'abord. Non, ils obéissent. Et quand il y en a un qui revient, un samaritain, en plus, c'est même pas un juif, c'est un samaritain qui revient, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Ne s'est-il trouvé que ce samaritain pour revenir rendre gloire à Dieu? Je ne sais pas si Dieu a été fidèle jusqu'à aujourd'hui. Si on est là, c'est que quand même on a certainement vérifié la fidélité de Dieu, etc., etc. Mais ce matin, combien auraient dû revenir dans la maison du Seigneur? Sérieusement, combien de gens ne sont pas là? C'est vrai? Combien de gens devraient être dans les églises aujourd'hui, d'après vous? Je crois que toutes les églises de France devraient être pleines par rapport à tout ce que Dieu a fait dans nos vies. Ne s'est-il trouvé que cet étranger, pour revenir, donner gloire à Dieu? Et je crois, c'est ma conclusion, mais je la dis maintenant, que Dieu, comme il est écrit dans le prophète Ésaïe 61, verset 3, Dieu peut nous donner un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Et ce qui a fragilisé des églises, abîmé des églises, détruit des églises, c'est biblique tout ce que je vous dis, ne vous inquiétez pas. Ce sont des chrétiens qui étaient revêtus d'un esprit abattu. Que de chrétiens ont attristé le Saint-Esprit? Que de chrétiens ont attristé leurs frères et sœurs? Oui ou non? Il n'y a pas des chrétiens, des fois, à la place de vous faire du bien, ils vous ont abîmé, découragé. Des chrétiens, ça va, mais non, il faut faire aller, ben ouais, c'est comme ça, t'inquiète pas, tout le monde est pareil. On sent qu'il y a des gens qui ont reçu, vous voyez. Et que de fois, nous nous sommes fait du mal à nous-mêmes. Vous le savez que vous vous êtes fait du mal parfois, ou vous n'y avez pas pensé? Vous savez que nous pouvons nous faire du mal à nous-mêmes? Lorsqu'on se plaint, lorsqu'on râle, mais on fait le vide autour de nous. Lorsqu'on est tout le temps en train de murmurer, de critiquer, et au nom de la vérité, parce qu'il y a des gens, bien sûr, ils vont trouver le prétexte pour justifier leur méchanceté, leur désobéissance, leur intégrité. Moi, je suis intègre, moi. Moi, je marche dans la vérité. Ah oui, mon frère, ma soeur. Si la vérité, elle est dite sans amour, ne la dites pas. Ne la dites pas. Que de fois nous nous sommes fait du mal à nous-mêmes. Et il y a des prophéties dans le Nouveau Testament. Elle est dans le prophète, dans Jude. Vous la lirez, vous lirez le prophète Jude, c'est très très long, il n'y a qu'un chapitre. Mais il est parlé des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort. Vous verrez ce qui leur est réservé. Ça fait quand même mal de voir ces choses. Ce sont des prophéties. Par rapport aux gens qui murmurent, qui se plaignent. Je dis souvent, l'autre fois j'ai posé, il y avait un gars... pour vous dire à quel point le monde il est. J'étais en train de faire le, mettre de la pression dans la voiture, vous savez, les pneus. Et il y a un pépé qui arrive, il était fou, il était enragé. Pourquoi? Parce qu'il avait trouvé une crotte de chien sur la piste cyclable. Il était scandalisé. Et je lui ai dit, vous savez, monsieur, je pense qu'il y a des choses un peu plus graves. Et il m'a dit, non. Et lui, je voyais qu'il était vraiment dans sa vérité, etc. Je voulais lui dire, vous devriez aller faire du vélo en série quelques jours. Puis je me suis dit, bon, ça va. Mais franchement, les chiens, ils ont bien le droit aussi. Mais sérieusement, il était en colère. En colère parce qu'un chien avait fait caca sur la piste cyclable. Alors vous allez me dire, c'est un païen. C'est un païen. Mes frères et sœurs, Jésus nous a tout dit. Ayez foi en vous. Non, c'est pas comme ça. Comment il a dit? Ayez foi en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Alors je pourrais parler, pour conclure ma prédication, et c'est une pensée que j'ai réservée pour la fin, je pourrais parler des promesses. Il y a des promesses qu'on connaît, il y a des promesses qu'on ne connaît pas, etc. Mais sans vouloir trop faire de comparaison, écoutez bien cette pensée. Vous aimez les promesses du Seigneur, d'accord? Bon. Il y a plein de promesses dans la Bible, il y en a plein. Mais intéressé par les promesses ou par celui qui a fait les promesses? Un petit enfant, comme celui-là qui pleure, écoutez. Un petit enfant, écoutez bien mes frères et sœurs, un petit bébé, allez on va prendre un gosse de 8 mois, 6 mois, 8 mois. De quoi il a besoin? Est-ce qu'il a besoin des promesses de sa maman? Tu sais, quand tu auras un an, tu auras un nouveau doudou. Tu auras des couches jusqu'à 2 ans et demi. Je te les achèterai, je te le promets. Tu auras des chaussures de sport, parce que quand tu commences, etc. Un bébé de 8 mois, vous lui feriez plein de promesses que la mère va tenir. Qu'est-ce qu'il a besoin, le bébé de 8 mois? Est-ce qu'il a besoin de tout un tas de promesses vraies? Ou est-ce qu'il a besoin de la présence de sa maman? Mes frères et sœurs, est-ce que la clé ne serait pas là? Sérieusement. Bien sûr qu'il y a des chrétiens qui se sont trompés par rapport aux promesses, oui ou non? Il y a des gens qui disent, oui, je ne comprends pas, Dieu m'avait fait une promesse, ce n'est pas accompli. Mais il s'est trompé, vous comprenez bien que ce n'est pas Dieu qui s'est trompé. C'est des gens qui ont pris leur désir pour la réalité. Nous pouvons nous tromper par rapport aux promesses. Je ne voudrais pas augmenter trop ma prédication par rapport à ce sujet. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il faut arriver à un moment donné où si nous avons mûri avec Dieu, nous puissions, comme l'apôtre Paul, lorsqu'il priait pour être débarrassé de son écharde, parce que pour lui, c'était quand même, c'est quelqu'un l'apôtre Paul, pour lui, elle l'empêchait d'exercer son ministère, et il a prié 3 fois, et au bout de la 3e fois, le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Je ne pense pas détourner les Écritures, les anciens me le diraient, en disant, ma présence te suffit. C'est la même chose. Oui. Ma présence te suffit. Et si nous avions cette intelligence spirituelle, je ne parle pas d'intelligence intellectuelle, si nous avions ce réflexe de dire, mais Seigneur, quand même, il y a plein de choses super simples. Ne vous inquiétez de rien. N'ayez pas peur du lendemain. Moi, je vous assure, quand je vois des chrétiens qui ont 30 ans de conversion, qui ont peur du lendemain, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne connaissent pas, ils connaissent des promesses, c'est sûr, ils sont capables d'en écrire, d'envoyer des textos, tiens, je te laisse, ça sert à rien. Seigneur, je veux ta présence, tout le temps. Et je crois que de rendre grâce, constamment, Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce pour le passé. Je te rends grâce pour le présent. Je te rends grâce pour l'avenir. Je te rends grâce pour l'éternité. Je te rends grâce pour tout. Jeudi soir, il y a un frère de l'église qui m'a demandé « Quel est votre mauvais souvenir en 20 ans à Sainte-Agne ?» J'ai dit « J'en ai aucun. » Je rends grâce à Dieu pour tout. Et c'est vrai. Pour tout. Pourquoi ? Parce que je crois qu'il n'y a pas un oiseau qui tombe sans que Dieu ne le veuille. Parce que je crois que Dieu règne au siècle des siècles. Et parce que moi, je voudrais être comme un enfant sevré sur le sein de sa mère. Moi, j'ai besoin de la présence de Dieu, les promesses. De toute façon, les promesses, vous le connaissez, le Seigneur? Est-ce qu'il est fidèle à ses promesses? Ce que le monde a besoin de voir, ce n'est pas des églises, des méga-church. Ce que le monde a besoin de voir, que ce soit une église de 10 personnes, de 100 personnes, une église baptiste, une église évangélique, une église pentecôtiste, les gens, ils n'en ont rien à cirer de ça. Ce que les gens, ils ont besoin de voir, c'est des chrétiens qui sont pleins de confiance parce que leurs yeux ne sont pas sur la tempête, leurs yeux sont sur Jésus. Et d'ailleurs, dans la fameuse tempête, il est dit, lorsque Jésus vit, c'est ça qui est bien dans cette histoire, Jésus vit, qu'ils avaient de la difficulté à ramer. Et il les a rejoints, c'est vrai qu'il aurait pu les rejoindre à 1 heure, il les a rejoints un peu plus tard. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il faut. Moi j'aimerais que certaines épreuves soient raccourcies. Vous aimeriez pas vous que des épreuves soient plus courtes? Qu'est-ce que vous préférez, une épreuve de 3 mois ou une épreuve de 3 jours? Hein? Mais peut-être qu'en 3 jours, vous n'apprendrez pas ce que Dieu voulait vous apprendre. Faites-lui confiance. Il est souverain. Le regard du Seigneur est sur vous, mes frères et sœurs, si vous faites ce qu'il dit. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. on n'est pas maso, on se congratule pas parce qu'on traverse ça. Mais dans ce que je traverse, je fais confiance à mon Seigneur. Dans ce que je vis, je lui fais confiance. Si vous lui faites confiance, il agira. Pas, il y a des gens qui disent, je prie, j'en ai marre, ça ne sert à rien, je prie. Mais ils ne font pas confiance. Il n'est pas dit, prie et il agira. Il a dit, mets en lui ta confiance. Et il agira. Bien sûr qu'il faut prier. Bien sûr qu'il faut méditer. Mais on peut faire ces choses sans lui faire confiance. Et si vous lui faites confiance, c'est une loi. Si vous mettez la main dans l'eau, elle sera mouillée. C'est une loi. Si vous lui faites confiance, il agira. Peut-être pas autant que vous voulez. Joseph, il a dû attendre 13 ans et puis 22 ans pour revoir ses frères. Mais Dieu agissait. Et pourtant, Dieu ne parlait pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va répondre à cette question? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire, Seigneur, tu vas m'aider? C'est vrai que ça fait 30 ans que je râle. Ça fait 30 ans, 40 ans, quel âge vous avez? Eh bien, dites, mettez votre âge, et ça fait combien d'années que je râle? Mais c'est pour celui qui est de passage, hein, je le sais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait dire au Seigneur, vraiment, mais vous savez, Dieu entend comme un enfant. Je vais prendre la Sainte-Seine, Seigneur, oui, je crois que tu envoies ta parole pour guérir les gens. Je veux être guéri. C'est vrai que peut-être vous êtes avec un conjoint qui fait que râler et vous avez pris le pli. Mais c'est vrai. Et moi, je ne suis pas là pour vous accabler. Peut-être que vous êtes avec des gens tout le temps en train de râler. Mais vous allez dire, c'est terminé. Et tu vas m'aider. Est-ce qu'il y a des promesses où Dieu dit qu'il sera notre aide? Est-ce qu'il y a des promesses où Dieu dit, oui, c'est bon. Mais quand même, Dieu est plus grand que la promesse. Vous êtes d'accord avec moi? Bon. Alors on va lui demander de l'aide. Et ceux qui me cherchent, me trouvent. Nous sommes devant Dieu. Je sais que plusieurs vous avez prié cette semaine, Seigneur, que le pasteur nous apporte la pensée de Dieu. Je sais et je vous suis reconnaissant. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez dit, Seigneur, tu vois, j'ai besoin d'une parole. J'aimerais que tu me parles. Eh bien, voilà. Simplement, on pourrait tous ressembler à ce bébé qui dit, non, mais moi, les promesses, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux les bras de ma maman. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en est là et qui pourrait dire ce matin, mais moi c'est pareil Seigneur, je veux tes bras à toi. Je sais que tes promesses sont oui, amen, bon ça c'est réglé. Elles s'accompliront ce soir, elles s'accompliront dans 2 ans, c'est réglé. Seigneur, je veux ta présence. Et cette sainte scène, elle va être le moyen d'une guérison. Alléluia. Est-ce qu'on peut, si vous êtes chrétien, vous lever à votre place pour prendre le pain et le vin avec beaucoup de respect. Beaucoup de crainte, le grand respect de Dieu. Levez-vous si vous êtes baptisé par immersion. Ça nous donne un peu plus de temps pour être debout devant Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Répondez à Dieu dans votre cœur, ne répondez pas. Ça ne sert à rien que vous priez à haute voix. Moi, je sais qu'à des moments, c'est bien de prier à haute voix, mais à des moments, il faut répondre au Seigneur. Répondez-lui. Avec 3 mots, avec 3 phrases. Vous savez, vous avez chacun votre façon de vous exprimer. Eh bien, exprimez-lui. À lui. Dites-lui, Seigneur, tu vas m'aider, je suis un mauvais père, je suis une mauvaise mère, je suis tout en train de râler devant mes enfants. Mais vous savez, on engendre selon son espèce. On engendre selon son espèce, vous inquiétez pas. À moins que les gens aient la capacité de contrecarrer cette affaire, il y en a. Mais d'une manière générale, on engendre selon son espèce. Et s'il y a quelqu'un qui est capable de rentrer en disant, tu sais, à sa femme, je te demande pardon, j'ai toujours râlé contre toi, tes enfants. Je te demande pardon, mon chéri, j'ai râlé contre toi, etc. Vous verrez. Vous verrez. Il y a 15 jours, il y a un couple qui est venu à l'imposition des mains. Je leur ai dit, j'avais à cœur de leur dire, mais vous priez ensemble? Non, on n'en va pas bien. Priez ensemble. Dimanche dernier, ils m'ont dit, monsieur Gault, on prie ensemble, ça va mieux. Mais je le crois, moi, ça. Pourquoi? Parce que c'est biblique. Une femme doit aider son mari, un mari doit aider sa femme. Je vais t'aider, mon épouse. Je vais t'aider, mon mari. Je vais vous aider, mes enfants, à apprendre, à rendre grâce, puisque c'est la volonté de Dieu. Et quand on travaille, eh bien, tout le monde se plaindra, mais moi, je me tairai. Je me tairai. Et je demanderai à Dieu de la sagesse pour répondre, pour témoigner. Il vous aidera. nous le croyons que tu es notre aide, puisque ça fait partie des innombrables promesses que tu nous as faites, toi, le Dieu de la promesse. Nous aimons tes promesses, mais franchement, Seigneur, nous voulons t'aimer à toi beaucoup plus. Et pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons fixé nos yeux sur les promesses, que sur les promesses. Alors que tu es capable de nous endormir dans tes bras comme un enfant sevré sur le sein de sa maman. Nous savons que ces temps de la fin sont des temps d'ingratitude et de rébellion. Nous, ce matin, nous sommes debout devant toi et nous choisissons la louange, les actions de grâce. Nous choisissons le vêtement de louange à la place d'un esprit abattu. Tu vois dans l'Église tous ceux qui ont un esprit abattu, qui t'aiment et qui sont tout le temps abattus à cause de cet esprit de plainte. Nous croyons vraiment que nous pouvons nous aussi, dans la détresse comme dans l'abondance, dans le désert comme dans les verts pâturages, nous pouvons être pleins de confiance. Oui, Seigneur, nous voulons nous examiner et nous éprouver pendant ce temps de Sainte-Cène. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus.